6h43 ici à Paris, c'est l'heure des sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Nemo.
Du football pour commencer, début des barrages, retour de la Ligue des Champions en Europe. L'Atalanta Bergame dos au mur.
Battu à Bruges 2-1 la semaine dernière, les Italiens doivent inverser la tendance. Et le signe qu'ils en sont peut-être capables, c'est le retour d'un de leurs éléments majeurs. Ademola Lookman, le Nigérian, semble de nouveau bon pour le service. Après une longue attente, Cédric Delivera.
Son retour était très attendu. Alors lorsqu'il s'est présenté hier sur le terrain d'entraînement, sans boiter, c'est toute l'Atalanta Bergame qui s'est sentie soulagée. Déjà présent pour la séance de ce week-end, Ademola Lookman a donc retrouvé ses partenaires sans encombre après plusieurs semaines d'absence. Depuis sa contusion au genou droit le 25 janvier, le Nigérian a manqué 5 matchs, dont 2 en Ligue des Champions. Une sacrée perte pour les Lombards. Lookman est sans doute le joueur le plus percutant du club italien et il est efficace. Auteur d'un triplé en finale de la Ligue Europa l'an dernier, il a inscrit 10 buts en Serie A auxquels il faut ajouter 5 passes décisives. Cette saison en Ligue des Champions, il a marqué 4 fois. Et en l'absence du meilleur joueur africain de l'année dernière, l'Atalanta l'a payé lors de ses dernières sorties en Coupe d'Europe. Un match nul contre le Barça et surtout cette défaite en barrage retour contre Bruges la semaine dernière. Même s'il n'est pas sûr d'être titulaire, les supporters lombards espèrent donc le voir au moins jouer quelques minutes pour aider son club à arracher sa qualification.
Atalanta Bergame Club Bruges, coup d'envoi 20h, temps universel, en même temps que Benfica AC Milan et Bayern Munich Celtic Glasgow. Un Milan AC en difficulté après sa défaite du match aller 1-0 qui ouvrira la soirée face au Feyenoord Rotterdam à partir de 17h45, temps universel. Le Benfica jouera contre Monaco. Vous l'aurez corrigé de vous-même, Nemo.
Un Milan AC 7e d'une Serie A dont la 25e journée s'est conclue hier avec un buteur africain.
Maxwell Cornet a pris part au succès de son club, le Genoa, 2-0 sur Venise. L'Ivoirien, buteur à la 86e sur une passe décisive du Ghanéen Kalebe Kouban. Grâce à ce succès, le Genoa grimpe au 11e rang du classement.
Chez les dames, cette fois, les éliminatoires de la CAN 2026 débutent demain, mercredi, et ce sera sans le Tchad.
Alors qu'elles devaient affronter les Lions du Sénégal vendredi, le 21 février, donc les Sao ne disputeront pas leur premier tour. La fédération tchadienne a officialisé le retrait de l'équipe nationale féminine, invoquant un manque de moyens financiers. Décision qui plonge les joueuses dans un mélange de colère et d'incompréhension, à l'image de la capitaine Nemercy Martin.
Un rêve qui vient d'être brisé. Étant sportive et surtout étant footballeuse, le plus grand rêve d'une footballeuse africaine, c'est d'aller jouer au moins une phase qualificative de la CAN. On a joué toute notre vie pour attendre ça. Et voilà que l'occasion se présente, malheureusement. La fédération vient de faire une annonce pour dire que voilà, on se retire de la compétition. Faute de lenteur par rapport au décaissement de l'argent pour les préparatifs. Comment on peut dire ça? Comment on peut ramasser 22 millions, préparer un tournoi d'une semaine pour la détection et dire qu'il n'y a pas un fonds pour préparer l'équipe pour l'amener jouer la qualification? Ça, c'est une négligence. C'est 22 millions pour déjà faire quelque chose, s'il y a la volonté.
Nemercy Martin avec Nesta et Yamgoto. Une CAN 2026 qui aura lieu au Maroc pour la 3e fois consécutive. Les éliminatoires démarrent demain avec 2 rencontres prévues, Soudan du Sud, Algérie et Niger-Gambie.
Du tennis pour finir, grosse déception pour 11 Jabeur au tournoi de Dubaï.
La Tunisienne restait sur un quart de finale à Doha. Cette fois aux Émirats, elle tombe dès le premier tour, battue par l'Américaine Peyton Stearns. 7-6, 6-4.
A tout à l'heure, Antoine Grenier.
RFI, toute l'actualité. Nemo en piste.
Les grands titres de ce mardi 18 février 2025, des délégations russes et américaines présentes à Riyad en Arabie Saoudite. Première rencontre de ce niveau entre Washington et Moscou depuis le début de l'invasion russe en Ukraine il y a près de 3 ans maintenant. Objectif, tenter de relancer une relation très mal en point alors qu'une éventuelle rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine se profile. De son côté, Kiev a répété ce lundi qu'elle ne reconnaîtrait aucun accord conclu sans elle et a regretté ne pas avoir été informé de ces pourparlers qui doivent se tenir aujourd'hui. Autre conflit à la une ce mardi au Proche-Orient, c'est aujourd'hui qu'Israël était censé se retirer du sud du Liban, mais l'armée va finalement y maintenir des troupes au-delà du nouveau délai fixé dans l'accord de cessez-le-feu. Tension également dans l'est de la République démocratique du Congo. Après Goma, le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda a désormais pris le contrôle de Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu. On fait le point dans nos journaux ce matin. La présence militaire française en Afrique continue de se réduire d'année en année. Ce jeudi, la France va procéder à la rétrocession de la base occupée par le 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine, aux autorités ivoiriennes. Un camp situé dans la commune de Port-Boué, qui va être renommé le camp Thomas d'Aquin Ouattara, du nom du premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Et une cérémonie officielle sera organisée en présence des deux ministres respectifs de la Défense. Côté ivoirien donc, Tenebi Raïma Ouattara, il est notre invité ce matin sur RFI et répond aux questions de notre correspondante à Abidjan, Binta Diagne.
Tenebi Raïma Ouattara, bonjour.
Bonjour Binta.
La rétrocession du 43e BIMA est un symbole fort. Qu'attendez-vous aujourd'hui de la coopération militaire avec la France ?
C'est donc un sujet dont nous discutons avec la partie française depuis 2 ans, depuis 2023. Nous sommes convenus d'avoir un nouveau partenariat. Nous proposons de consolider la coopération de nos forces conventionnelles, de renforcer l'appui de la partie française dans le partenariat avec la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le volet renseignement et puis le volet aussi des forces spéciales, et enfin de contribuer à la montée en puissance de l'armée de l'air de Côte d'Ivoire.
Une centaine de militaires français devraient rester pour assurer des formations. Quels sont les besoins spécifiques de l'armée ivoirienne ?
Les besoins sont nombreux, je dirais. Voici comment est-ce qu'on pense organiser le 43e BIMA. Nous allons créer un centre d'aguerrissement. Nous avons besoin, avant de projeter nos soldats dans les opérations des Nations Unies, donc de les former. Jusque-là, ces formations se faisaient dans des camps assez reculés. Nous pensons que le 43e BIMA, donc, correspond parfaitement à des infrastructures qui correspondent à la formation. Nous avons déjà créé, en partenariat avec la France, une école de communication au niveau donc des armées, ce qui est important. Et nous avons l'intention aussi d'y installer un certain nombre de bataillons ivoiriens dans le camp.
Quelle est la contrepartie à cette coopération ?
La coopération militaire continue avec la France. Nous, il n'y a pas de rupture en réalité, parce que une équipe de l'armée de l'air, la France va s'installer à Boaké, par exemple, où il y a des infrastructures appropriées pour la formation des pilotes ivoiriens. Donc, la coopération continue en réalité. La France a voulu réarticuler son dispositif en Afrique. On ne peut que donc aller dans ce sens, mais la coopération continue.
À Munich, vous avez eu un entretien avec le commandant d'Africom. Est-ce que l'administration de Donald Trump vous paraît disposée à reconduire le soutien des États-Unis en matière de formation et d'équipement des armées ivoiriennes ?
J'ai indiqué au responsable de Africom, le général Langlais, que nous avions quelques inquiétudes parce que nous avions un plan de formation avec les États-Unis qui a dû connaître un ralentissement à partir donc des instructions depuis Washington. Il m'a rassuré. Il m'a rassuré pour me dire que la Côte d'Ivoire constitue quand même un pays important. Et c'est une évaluation qui se fera très rapidement et la coopération devrait continuer normalement.
En décembre, deux gendarmes ivoiriens qui étaient détenus à Ouaga depuis plusieurs mois ont pu être libérés grâce à la médiation du Togo. Le soldat et le VDP burkinabé sont aussi rentrés chez eux. Alors, passé cet épisode, est-ce que les discussions avec votre homologue burkinabé de la Défense ont pu reprendre ?
Le Burkina et la Côte d'Ivoire ont une histoire commune. Nous sommes tellement liés, puis nous avons des populations qui sont de part et d'autre, qui parlent la même langue. C'est un certain nombre de choses qui font que la Côte d'Ivoire ne peut pas se fâcher avec le Burkina, vice-versa. Donc, il peut y avoir des incompréhensions, mais très rapidement, ces incompréhensions sont levées et puis la vie continue. Je pense qu'il n'y a pas de problème a priori.
Vous parlez justement de la frontière. Est-ce que du coup, par exemple, les discussions sur la délimitation de la frontière qui est commune ont pu reprendre ?
Oui, effectivement. À Bobo-Dioulasso, au jour d'aujourd'hui, les discussions ont repris pour essayer d'arriver à une délimitation des frontières. On s'est fixé un calendrier qui devrait prendre fin à fin juin.
Est-ce que vous êtes volontaire pour essayer de relancer les discussions autour de la mise en place de patrouilles mixtes entre le Burkina et la Côte d'Ivoire ?
On l'a toujours souhaité. La partie burkinabé nous avait donné des assurances dans ce sens-là, mais pour le moment, ce n'est pas effectif. Mais c'est notre souhait, parce que ça permettrait vraiment de régler un problème. Ça permettrait donc à la Côte d'Ivoire de nettoyer le nord ivoirien, ça permettrait au Burkina de nettoyer le sud burkina. Mais pour le moment, ce n'est pas effectif. La dernière opération que nous avons menée ensemble date de 2021. Depuis, donc, nous n'avons pas encore pu mener d'opération ensemble, mais j'ai bon espoir qu'on puisse y arriver quand même.
Monsieur le ministre d'État, une question politique maintenant. Début janvier, à l'occasion des vœux au corps diplomatique, le président de la République a dit qu'il n'avait pas encore pris sa décision concernant le scrutin d'octobre prochain. Pensez-vous qu'il veut y aller ?
Posez la question au président de la République. Merci.
Merci à vous.
Entretien entre Tene Biraïma Ouattara, ministre ivoirien de la Défense, et Binta Diagne, notre correspondante à Abidjan, à retrouver en intégralité sur notre site internet RFI.fr et sur l'application RFI Pure Radio. Le gaz naturel liquéfié russe au cœur de la chronique des matières premières de ce mardi. Les pays européens en ont encore importé davantage en 2024 que les années précédentes. Un nouveau bond de près de 20%. Alors que l'un des objectifs de l'Union européenne était de ne plus dépendre des combustibles fossiles venus de Moscou d'ici 2027, certes, il n'est pas inatteignable, mais Marie-Pierre Olfand, il y a encore beaucoup de travail.
C'est une situation presque paradoxale. La consommation européenne de gaz naturel liquéfié a chuté l'année dernière à son plus bas niveau depuis 2021. Et la part du GNL dans la demande globale de gaz des Européens a aussi baissé. Mais les 27 pays membres de l'UE ont continué à se fournir en Russie et ont même acheté presque 20% de GNL russe en plus. Ce qui veut dire, pour parler argent, que l'UE a dépensé 6,3 milliards d'euros en GNL russe l'année dernière. Ces volumes sont entrés essentiellement via les terminaux portuaires espagnols, belges et français. Près d'un tiers sont passés par le terminal de Dunkerque. C'est donc la France qui a importé l'année dernière le plus gros volume de gaz naturel liquéfié russe, un volume qui a bondi de 81% par rapport à 2023. Mais ce chiffre serait trompeur selon une étude menée par plusieurs organisations non gouvernementales. La France serait surtout une porte d'entrée au service de l'Allemagne, un pays qui a banni l'importation de GNL mais qui recevrait une partie des volumes importés par la France et la Belgique grâce à une interconnexion qui permet d'acheminer le gaz facilement. Derrière ces importations, une société allemande qui aurait acheté 58 cargaisons de GNL l'année dernière à un fournisseur russe bien identifié. Le transit via d'autres pays européens aurait permis à l'Allemagne de blanchir en quelque sorte ses achats russes. Plusieurs ONG parlent de mascarade qui alimente l'économie russe et indirectement la guerre. À ce stade, l'Union européenne n'a pris aucune sanction sur le gaz naturel ni sur le GNL russe, seulement des mesures contre le transbordement de gaz naturel liquéfié russe dans les ports européens. Une interdiction prise en juin dernier qui devrait entrer en vigueur au mois de mars prochain.
Marie-Pierre Olfand pour la chronique des matières premières. C'est un bien triste anniversaire que celui des 3 ans de guerre en Ukraine qui aura lieu lundi prochain le 24 février. Alors que les tractations s'intensifient ces derniers jours pour tenter de régler le conflit, RFI vous propose un grand reportage consacré au retour des prisonniers de guerre ukrainiens. Des vidéos sont régulièrement publiées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et ce qui marque la plupart du temps, ce sont les visages émaciés, les yeux hagards comme perdus de femmes et d'hommes et qui ont parfois passé plusieurs années dans les prisons russes. De quoi une nouvelle fois révéler les mauvais traitements subis de l'autre côté de la frontière en dépit des exigences du droit international. Extrait de ce reportage signé Emmanuel Chaz.
À Kiev, nous rencontrons un autre prisonnier libéré. Il fait partie de la brigade Azov, dont les soldats sont particulièrement maltraités par Moscou, qui les accuse, comme la Russie le fait de tous les autres Ukrainiens, d'être des nazis. Sous le nom de code de reporter, en référence à ses études de vidéaste, cet homme qui est né dans les années 90 dans une Ukraine libre avait rejoint la brigade juste après ses études. Après avoir survécu au siège de Mariupol et d'Azovstal, il a été capturé, blessé par l'armée russe.
Pour faire court, j'ai été en captivité pendant près de 11 mois. C'est un manque de liberté absolument total. Tout ce que tu peux faire, c'est respirer et marcher. Et même t'allonger ou te lever, ce n'est pas à toi de décider. Ils décidaient pour nous quand nous devions nous asseoir. Nous avons eu une période au mois d'avril où il nous était interdit de nous asseoir pendant la journée. Et de 6h à 22h, c'est une période d'activité. On ne pouvait s'asseoir que pendant les repas, ce qui représente environ 10 minutes, soit 30 minutes par jour. Vous pouvez rester assis le reste du temps, vous vous promenez dans une cellule un peu plus grande que cette pièce. Ceci est décidé pour vous.
Reporter ne souhaite pas parler des tortures subies en prison. Il explique qu'il est déjà arrivé que des Russes écoutent ce genre de témoignages et s'en inspirent pour alimenter leur violence. Le rapport des Nations Unies fait état de pratiques systématiques rapportées par les prisonniers de guerre après leur libération, des sévices sexuels, des électrocutions, de la torture psychologique. Reporter, lui, a réussi à tenir.
Je suis tombé malade, je ne sais pas moi, une fois probablement pendant toute la captivité, parce qu'il faisait froid et qu'on nous donnait très peu de nourriture et pas de vitamines. Et pourtant, mon corps n'est pas tombé malade, même si j'ai perdu beaucoup de poids. Psychologiquement, ce qui m'a aidé, si on analyse ça a posteriori, on pourrait dire que c'est la naïveté, une sorte de croyance en un miracle. Mais je me disais simplement que nous serions échangés, que tout irait bien, que tout irait mieux. On se soutenait comme des frères. On se disait, on pourrait faire un film là-dessus, à propos de six gars qui marchent en cercle, parce que c'était la seule chose qu'on pouvait faire. D'ailleurs, notre cercle faisait à peu près le périmètre de cette table. Nous avons mesuré 11 mètres. Donc mon record est d'avoir marché 24 kilomètres en une journée.
Prisonnier de guerre ukrainien, un retour au pays qui met en lumière l'enfer des geôles russes. Un grand reportage d'Emmanuel Chaz à retrouver dès aujourd'hui sur nos antennes et sur l'ensemble de nos plateformes d'écoute. Dans un instant, sur RFI, le retour de l'actualité internationale avec le journal de Marion Kazanov. Nous sommes à El Paso, au Texas. À tout de suite.
Appelez-nous, exprimez-vous. Chantal Leroux.
Au Togo, après les législatives d'avril, le parti présidentiel vient de remporter les premières sénatoriales de l'histoire du pays. Un succès qui ouvre la voie à l'élection de Fornia Simbe comme président du Conseil. Que vous inspire ce nouveau régime parlementaire ?
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI. Ce mardi sur RFI.
Pourquoi tout est une histoire de molécules ?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
De notre premier souffle jusqu'au dernier, les molécules qui nous constituent interagissent sans cesse. Elles se rencontrent, s'emboîtent et se séparent. La vie, l'amour, la mort. Raconté avec humour et poésie par le chimiste Marcel Hibert. Pourquoi tout est moléculaire ?
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.